Donc, je ne sais pas si Ravato vous a déjà défini quel est l'objet de ce livre, mais je voudrais d'abord vous dire que, puisqu'on a très peu de temps, une fois par semaine, nous pourrons voir vraiment le sujet que je vais définir dans ce rôle. Et en temps de cours à cours, je donnerai un certain nombre de textes à lire. Et il s'agira toujours de textes dans le livre de Méchine. Et puis peut-être de temps en temps, peut-être une référence à un ouvrage dans la morale que vous préparerez avec vos autres professeurs. Voilà. Donc l'objet de cette étude, c'est de suivre, à travers les récits historiques que nous avons dans le livre de Méchine, l'apparition de l'identité d'Israël dans l'histoire de l'humanité. De cette façon d'arriver à caractériser le plus rapidement possible ce que la Bible entend lorsqu'elle s'adresse à un peuple particulier dont elle raconte l'histoire avant de révéler la loi en et l'histoire à travers tous ces longs récits des généalogies de l'engendrement d'une entité humaine qui commence dès le début de l'histoire humaine. Voilà, grosso modo, le premier. Alors, pour les premières périodes, jusqu'au temps des patriarches, nous irons assez rapidement, parce que finalement, encore une fois, il y a peu de temps, et je crois que les sujets les plus importants pour nous aujourd'hui, qui vivons des événements où l'histoire d'Israël recommence à la manière de l'enseignement que nous donnera ce sujet au temps des Hébreux, jusqu'au temps de la destruction du Baït Chéri, qui nous permettent d'arriver le plus rapidement possible à diagnostiquer la nature réelle des problèmes qui se posent à l'identité d'Israël de notre temps, en nous référons à ce que la Torah a enseigné au sujet des commencements de notre histoire. Bien. Nous, aujourd'hui, nous allons nous occuper du premier chapitre du livre de Bereshit, qui s'appelle en hébreu le Maasé de Bereshit. Pour la tradition juive de la Bible, ce premier texte va jusqu'au premier verset du deuxième chapitre. Je vais vous donner une petite parenthèse très rapide pour vous expliquer cela. Vous avez dans les éditions imprimées de Bible une pagination, disons, on va dire capitulation, étymologiquement en chapitres. Mais ces chapitres ne sont pas originellement les découpages de textes de la tradition juive, mais de la tradition chrétienne. Donc, c'est bien ce qui concerne les chapitres, les pratiques. Je crois qu'on va attendre un moment. Alors, en français, on a l'habitude d'intituler cela les six jours de la création. dans cette expression aux épingles. Alors, elle n'est pas forcément fausse si on prend l'expression dans un sens très général, mais si on y prête attention, alors on se rend compte qu'il faut analyser de façon un peu plus précise, parce que ça véhicule des notions qui font partie de nos études, et il faut les comprendre bien d'eux. Et je pense que vous comprenez très bien que l'objectif, c'est finalement de passer du langage français que vous employez, qui est le véhicule culturel de la culture que vous avez eue jusqu'à présent, à penser le texte hébreu en hébreu. Et ça nous aidera, en tout cas, à préciser en hébreu même l'intention, encore une fois, des notions de base que nous allons analyser au fur. Alors, pourquoi cette expression, le cycle de la création, n'est pas exacte? Ça vient d'abord de la définition de la notion de création. En hébreu, la bria. Le sens hébreu de bria, c'est la création à partir du néant. Bien sûr, c'est un sujet pas simple, et vous trouvez, parfois même dans les commentateurs traditionnels, tout un approfondissement, une réflexion, parfois des discussions à ce sujet. Mais j'emploie toujours le sens le plus général, le plus simple des notions que nous avons étudiées. Alors, en hébreu, cette notion de baro, bel, vech, alef, bria, la création, l'acte de création, bria signifie aussi le résultat de cet acte, c'est-à-dire le monde défini en tant qu'il est une création, la création. Vous entendez que ce terme peut être employé en tant que substantif dans deux sens différents. L'acte de créer, ou bien le résultat de cet acte, c'est-à-dire le monde en tant que bria et le monde. Alors, l'expression hébraïque, c'est yesh me'aïm. Yesh et ya me'aïm à partir de l'inyapa. Alors, si on a bien compris le sens de cette notion, en français, on en parle en latin, ex nihilo, à partir de rien, eh bien, ça signifie que c'est un instant. Et le fait de création s'épuise dans cet instant où il n'y avait rien et apparaît à l'être ce qui va être la matière du monde. Par conséquent, la notion de création elle-même n'implique pas de durée de temps. Et donc, par définition, une expression comme les six jours de la création est une expression fausse. Est-ce que c'est clair? Et donc, il faut préférer l'expression de la tradition hébraïque, Maaseh Bereshit. On met l'accent dans cette expression sur le fait qu'il y a un commencement. Et qu'il y a eu, à partir du commencement, un temps de l'œuvre, de l'organisation, le créateur agit, forme, organise le monde du commencement jusqu'au moment de la fin des six jours, où ce monde devient suffisamment habitable pour l'homme, alors l'homme apparaît dans le récit, apparaît dans le monde. N'oubliez pas cela, pendant les six jours du commencement, l'homme n'est pas présent au monde. C'est donc un récit qu'on n'a pas l'habitude d'étudier. Je ne vais pas prendre trop de temps pour citer la référence précise, mais enfin, je pense que vous étudierez ça d'autre part. On n'a pas l'habitude d'étudier dans son objet, disons, métaphysique. Qu'est-ce que ça veut dire créer? Comment le créateur s'y prend pour créer à partir de rien la présence d'un monde? Là, ce sont des études qui sont réservées dans le Rambam de Mishnah, dans ce que vous avez entendu parler de la Kabbalah. Donc, c'est pas cela qui est le but. Mais nous allons essayer de recueillir, de recevoir les leçons que le texte veut nous transmettre à travers ce récit en introduction à l'histoire humaine. Et nous allons aujourd'hui d'en étudier quelques-unes. Alors, il y a d'autres expressions dans la tradition humaine pour dire le titre de cet ensemble de textes, qui encore une fois, je vous rappelle, va jusqu'au verset 3 du chapitre 2, c'est aussi Maaseh Bereshit, qui est assez rare. Maaseh Bereshit, c'est ce que vous dites. Déjà, c'est Sheshet Yemei HaMaaseh, les six jours de l'œuvre sous-entendu du commencement, Sheshet Yemei HaMaaseh, ou Sheshet Yemei HaBereshit, les six jours du commencement. Ce sont des expressions analogues qu'on a l'habitude de retenir surtout la première, Maaseh Bereshit, l'œuvre du commencement. Très bien, une grande règle dans l'étude de la Torah, c'est de commencer d'abord par essayer de mettre en évidence le message d'ordre moral qu'à l'enseignement de la Torah veut transmettre. Par exemple, dans notre sujet, une étude, disons, philosophique de la notion de création serait, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, un essai de compréhension d'une notion qui est rebelle à toute analyse de la raison. Parce que cette notion implique une contradiction. Elle est contradictoire au principe d'entité qui est la règle de l'intelligence humaine. Vous rappelez de la définition en hébreu, Yesh Berim, cette notion, il y a, à partir de il n'y a pas, enveloppe une contradiction logique. Par conséquent, elle est a priori rebelle à une étude rationnelle. Elle se présente comme un objet de foi. Nous savons qu'il en est ainsi parce que la Torah l'enseigne. Bien entendu, la raison humaine, d'autre part, pour sa part, peut envisager l'hypothèse que le monde a été créé. Mais cela reste une hypothèse. Elle n'a aucun moyen, ni logique, ni expérimental, d'arriver à une décision, à une conviction, à une certitude. Et donc cette notion, vous pouvez la trouver dans la pensée naturelle, dans la pensée philosophique en général, dans la pensée non révélée, mais elle est toujours présentée sous forme d'hypothèse. Alors que, pour la tradition, il s'agit d'un objet de foi, ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas comprendre sa cohérence propre, sa signification, mais c'est dans d'autres études qui ont précisément pour objet l'étude métaphysique du message d'une telle notion. Que Dieu a créé le monde, qu'est-ce que ça veut dire créer ? Ça se révèle à la raison. Encore une fois, je n'ai pas fait exprès, c'est un objet de foi, mais ça ne signifie pas, il n'y a pas une machmaro, une signification, mais même pas de l'ordre de la raison. Alors, est-ce que c'est suffisamment clair ? Alors, quel est l'essentiel du message qui veut nous être transmis par cet enseignement ? La Torah sait très bien qu'à moins d'une information supplémentaire, une initiation, celui qui entend ce verset ne comprend pas de quoi il est parlé dans cette notion. On va s'y habituer. Et ça fait des milliers d'années que nous sommes habitués à cette donnée de foi que la Torah enseigne, que le monde est créé. Alors je vais m'appuyer sur un certain nombre de sources, on ne va pas se rendre les étudier la même ou telle, pour essayer de vous formuler le message essentiel qui, au niveau de l'enseignement moral, et nous aurons tout le temps à travers l'année de définir ce terme de morale, qu'est-ce qu'on entend exactement, mais je vais prendre dans le sens habituel actuellement, donc l'enseignement de cette notion de vie. Alors, je suis maintenant. De vous enseigner un peu cela, un peu souvent le postulat, pour gagner du temps. Si quelque chose n'est pas clair, à la fin de l'exposé de telle partie de l'étude, je m'interroge. La notion de créer implique qu'il y a un créateur et une créature. Or, quel est l'objet du créer ? C'est faire apparaître à l'être le monde. Donc, la formule qui apparaît immédiatement, c'est qu'il y a deux manières d'être radicalement différentes. L'être qui se définit comme donnant l'aide, c'est le créateur, et l'être qui se définit comme recevant l'aide, c'est la créature. Bon, je pense qu'il est même inutile de répéter la formule. Et nous avons donc, en préface de la préface elle-même, une notion de base. La Torah nous aide à diagnostiquer notre manière d'être en tant que créature. Je répète la définition. La créature n'existe que dans la mesure où elle reçoit l'être qui la fait être. Et tout de suite, nous sommes au niveau du registre moral. C'est-à-dire qu'on n'a pas oublié, on a réservé aux autres études, la question métaphysique centrale, qu'est-ce que ça veut dire créer, en gardant clairement à l'esprit que la raison ne comprend pas, mais que nous recevons cette connaissance, et nous avons des raisons de savoir que les connaissances qui sont transmises par la prophétie hébraïque ont une portée importante, disons, avant même de le comprendre, et dans le sens métaphysique total, c'est que cette notion qui est un objet de foi véhicule en même temps au niveau moral un message important. La créature est aidée à diagnostiquer sa manière d'être, elle est l'être qui reçoit l'être. La deuxième notion qui apparaît tout de suite, c'est que cet être qui est reçu, pour être acquis, vraiment doit être mérité. Si vous avez l'occasion d'étudier les premières notions que les commentateurs de base, en particulier Rashi, ici, vont nous transmettre en citant le Midrash, vous verrez que c'est cela que Rashi a, dans cet exemple en particulier, a en perspective d'enseignement. Je vais vous dire très rapidement pour vous aider, du point de vue de la méthode, à retrouver cela par vous-même. Vous allez être étonné, et ils ont fait le premier Rashi de suite. Enfin, sinon, vous le ferez, vous le direz. Rashi commence ainsi. En principe, la Torah, c'est le livre de la loi. Je paraphrase pour vous donner l'explication à la part de ma citation. En principe, la Torah, c'est le livre de la loi. On s'attendrait donc à ce que dès le début, ce livre enseigne les commandements de la loi. Or, voici qu'il commence par enseigner l'histoire. Depuis le commencement absolu, la création, l'histoire depuis le premier homme, Après que le monde soit devenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, suffisamment façonné, suffisamment organisé pour être habitable par l'homme, l'histoire de l'homme commence tout de suite. Vous serez au verset 4 du chapitre 2, immédiatement. L'histoire de l'homme se développe, une des lignées humaines va être nommée Israël, en fin de compte, après une longue, longue étude que nous aurons depuis Abraham, les différentes étapes des engendrements d'Israël à travers l'histoire du patriarche. Et ce n'est que lorsque ce peuple Israël est constitué en nation, sort de son exil d'Égypte, que la Torah est donnée. Et donc le commencement de la Torah, en tant que livre de la loi, se trouve au début du deuxième livre, au début de l'Exode, à partir du chapitre 12, dès que la première mitzvah est donnée à ce peuple d'Israël sorti de l'Égypte. L'objet de notre étude, je le répète, c'est précisément toute cette partie de préface historique. Et la question que pose Rachid, et elle est posée plusieurs fois dans le Midrash, sept fois dans le Midrash, c'est comment se fait-il que dans le même livre, il y ait deux sujets aussi différents. Nous sommes tellement familiers, tellement habitués à ce livre, où il y a et les récits historiques et l'enseignement de la loi comme loi, que nous prenons plus garde à la question. Parce qu'on est habitué. Et très souvent, on trouve que la familiarité avec une donnée de connaissance fait apparaître une évidence qui se fait prendre pour quelque chose qui va de soi. Mais ça ne va pas de soi que dans le même livre, il y a deux sujets aussi différents, l'histoire et la loi. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, nous sommes habitués à cela, alors on ne voit pas le problème. Rachid nous dit, la Torah, en tant que livre des lois, aurait dû commencer à la première mitzvah qui a été donnée à Israël. Et pourquoi ça commence au récit de la création? Alors, il y a un enseignement qui n'est pas facile à décrypter dans sa logique interne, mais je vais essayer de l'expliquer très rapidement, il dit ceci. Parce qu'en fin de compte, c'est Israël qui seul va être capable de recevoir la loi. Quelle loi? La Torah. C'est-à-dire la volonté du Créateur pour la conduite de ses créatures. Et j'avais parlé d'un problème encore plus général. Pourquoi la Torah n'est pas été révélée dès le premier homme? Puisque c'est la volonté du Créateur pour la conduite de ses créatures. Alors, en fin de compte, cela nous est expliqué dans tout ce récit historique. Cet Israël, qui en fin de compte, sorti de l'exil d'Égypte, arrive au Sinaï pour recevoir sa Torah, elle va réclamer ses droits à la terre d'Israël. Et il va se trouver en but à l'opposition des habitants du pays qui vont lui refuser ses droits qu'ils connaissent comme légitimes parce que cette terre est connue. Et maintenant, nous sommes très à l'aise pour pouvoir le savoir, mais déjà, autant où Israël sort d'Égypte, cette terre est connue comme étant la terre promise à Israël. Mais t'es promise entre guillemets, parce qu'on parle français, on a l'habitude de dire la terre promise. Je me souviens, quand Étoile de Rave disait, la terre promise, une terre donnée. Hachemantat, Hachemachem. Est-ce que c'est clair? L'expression de terre promise, ça fait partie de toute une philosophie, la philosophie que l'on n'aura jamais. Elle reste promise, c'est sa valeur. Vous avez compris? Et donc, on connaît ça, il faut penser les choses en hébreu. Il y a moins des surprises. Alors, je reviens dans notre sujet. Je vous donner un petit exemple, parenthèse dans la parenthèse. J'ai toujours l'habitude de citer, mais quand nous arriverons à l'histoire d'Abraham, du peuple d'Israël, vous allez retrouver, c'est que cette terre est connue comme étant la terre des Hébreux. Alors même qu'on était dans des temps de civilisation, elle était occupée par des peuples étrangers, en particulier les Cananéens. Je vais vous dire quel est l'épisode historique que vous pouvez retrouver. Lorsque Joseph, rappelez l'histoire de Joseph, vendu par ses frères, a été vendu comme esclave en Égypte, qu'en fin de compte, le pharaon avait besoin de lui pour comprendre les rêves qu'il avait, un pharaon qui rêve, on s'en occupe pas un peu. C'est bizarre, un pharaon qui rêve. En plus, il rêve dans la Torah. Et alors, Joseph dit, j'ai été volé de la terre des Hébreux. Et au Canaan, totalement, le pharaon comprend qu'est-ce que c'est la terre des Hébreux. C'est le pays de Canaan. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que cette terre est connue comme la terre des Hébreux. Je reviens à notre sujet. Et donc, lorsque cet Israël, sorti d'Égypte, réclamera sa terre parce que ce n'est que sur sa terre, et vous aurez le loisir de l'apprendre, que la pratique de cette loi prend le sens, il faut que cette terre, pour que la Torah soit réalisée sur terre en général, alors il va se trouver en lutte à l'opposition, à vos refus des habitants du pays. Plus que ça, une coalition, déjà dit Rachid, ou Mokarla, on appelle ça l'ONU, d'une coalition de nations qui va reprocher à Israël de rentrer chez lui. Et vous remarquez que c'est notre problème. Et vous remarquez que c'est la première question que je pose Rachid. Alors Rachid nous dit, voilà, c'est pour ça que ce texte, le Maaseh Bereshit, nous a été donné par écrit dans la Bible que tout le monde peut lire. constituer. Parce que vous attendez de votre part que ce texte, on ne l'étudie pas en fait dans son objet métaphysique, sauf dans la Kabbalah. Si on l'étudie dans le chat, vous comprenez tous ces mots. C'est pour en retirer un enseignement moral. Et c'est vrai d'ailleurs pour tous les textes de la Kabbalah. La tradition juive se caractérise comme cela. Quel est le sens pour le problème moral de ces choses qui sont objets de foi que la Torah nous raconte en sachant très bien que si nous n'avons pas une initiation particulière, on ne pourra pas la comprendre. Vous suivez ce que je dis? Et bien, voilà la réponse que nous donne Rachid. Le savoir est de pouvoir désigner ce texte à ceux qui y croient. En fin de compte, vous savez très bien que ce texte, énormément de peuples dans le monde y croient, chacun à sa manière, mais ils y croient. Ils y mettent une croix, mais ils y croient. Et de leur dire, ben, qu'est-ce qui est écrit dans le livre que nous croyons? C'est que le monde a un créateur. Et il le donne à qui est droit à ses livres. La chair, Yachar Vela. Vous voyez ce que vient de dire ça? Qu'est-ce que veut dire cette expression? Je crois que dans le livre traduit en français, et là c'est les pièges de la traduction, on traduit à qui bon lui semble, il me semble. C'est bien ça? Vous avez un Rachid en français? Vous savez que Rachid en français? Mais bien plus que Rachid. Mais en tout cas, les traducteurs traduisent cette expression hébraïque. La Hachère, Yachar, Vena, à qui est droit à ses yeux, selon lui, le créateur, traduit à qui bon lui semble. Mettez ça en parenthèse, ça veut dire à qui le mérite, d'après les critères de, je paraphrase, les critères de la morale selon le créateur. Est-ce que c'est clair? C'est pas un caprice, c'est il y a des règles, qui correspondent d'ailleurs au sujet central. Les raisons pour lesquelles c'est à ce peuple qu'a été donné la Torah sont les mêmes raisons pour lesquelles c'est à ce peuple qu'a été donné cette terre. Et nous retrouvons là les promesses faites à Abraham. Il y a un faisceau de promesses que vous étudierez de différentes manières, la promesse d'une descendance, le peuple, la promesse d'une terre, la terre, la promesse d'une Torah, la Torah. Vous retrouvez là les trois grands actes de notre identité, Ab Israël, Torah d'Israël et l'Égypte. Et donc, Rachid ne parle pas d'une anecdote, d'un point anecdotique qui va directement à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi la Torah commence, le livre de la Torah commence par nous raconter tout ce récit historique avant de donner la loi. Et qu'est-ce qu'on apprend là? Qu'il y a un créateur qui donne et celui qui reçoit donne. Donc, le point historique du raisonnement dans lequel Rachid veut nous faire comprendre comment nous pouvons persuader les peuples du monde que nous avons droit à cette terre, qui savent être la nôtre, c'est un problème pas simple. C'est un autre sujet. Il n'y a plus de peuples de Marie aussi, on peut avoir une minute là-dessus, on le ferait. On se rachète, préparez-le en attendant. Mais je voulais mettre en évidence l'essentiel du principe. Il y a l'être créateur, c'est l'être qui donne l'être, qui se définit par le fait de donner l'être. L'être créature, c'est l'être qui reçoit l'être, qui se définit par le fait de recevoir l'être. Et qui, par conséquent, pour être, doit le mériter. J'espère avoir fait comprendre très rapidement que la notion de création, c'est le fondement de la conscience morale. La première vertu morale, c'est prendre conscience de soi comme créature. C'est-à-dire, encore une fois, je vais répéter le même terme, être n'existant que parce que reçoit l'être qui le fait exister, qui donc doit mériter cet être qui le fait exister. D'où l'histoire préface à la loi. Et le commencement de l'histoire, c'est cette notion de l'histoire.
Je comprends pas pourquoi. Pourquoi le fait d'être créé, c'est un fait qui doit mériter.
C'est un fait
qui doit mériter.
Oui. Je vais faire une autre question. C'est jamais deux questions, alors pas, ça se mélange. Alors, chacun son tour. Je vais expliquer une autre manière. L'objet, c'est pas l'étude, c'est pas la notion de création. C'est de la chagrin. Nous devons étudier la notion de création, on ne peut pas toute l'année, et pas seulement quand il faut avoir. Mais si on comprend bien, si on prend au sérieux les postulats du récit biblique, c'est Dieu qui crée le monde, et on prend au sérieux cet acte-là, alors on comprend que la Torah peut désigner une notion qui est impossible à surmonter par l'intelligence humaine. Il y a une impossibilité dans la notion de création. Pourquoi? Parce que seul Dieu est. A priori. Donc il n'y a pas de place pour le monde. Est-ce que c'est clair? Si Dieu est, il est tout l'être. Donc la notion de place pour le monde, c'est incompréhensible. C'est pourquoi nous avons besoin d'énormément d'études, d'initiation à l'enseignement de la prophétie, ce qu'on appelle la Kabbalah, pour arriver à comprendre ce que la Torah entend par une telle notion. Comment Dieu s'y est dit pour faire exister une place pour un monde? Est-ce que c'est clair? Par conséquent, il est une créature et puis il est impensable. Je dis des choses difficiles parce que votre question était à une tentation. Et la cause, et c'est ce que, si vous voulez, le secret de la Torah à ce sujet, c'est que la créature, a priori, ne peut pas exister. Parce que deux choses, lui, ou elle est vraiment de l'être, alors elle est confondue en Dieu, ou elle n'est pas vraiment de l'être, alors elle est néant. Et pourtant, il dit cette créature, c'est nous. C'est notre monde. Est-ce que c'est clair? Et alors, le secret qui doit nous être dévoilé, c'est que nous sommes dans un espace et un temps provisoire du monde, de l'être, qui s'appelle, alors là, c'est ce monde-ci, où, à l'abri du temps et de l'espace, on lui donne le temps, le loisir d'acquérir le mérite d'être. C'est celui qui a acquis le mérite, à qui le mérite d'être peut être heureux. Et vous retrouvez là, il faudrait beaucoup de temps, mais surtout beaucoup d'érudition, que vous n'avez souvent pas encore, énormément de faisceaux d'enseignement de la tradition à tous les niveaux qui se récapitulent. Et la clause du pouvoir être, c'est le mérite d'être. Alors, j'ai encore un petit peu changé de vocabulaire, puisque nous avons toujours pensé de passer. On ne peut pas dire que l'homme est. Il existe. C'est différent. Je vais expliquer ça. C'est Dieu seul dont on peut dire il est. Il est l'être. L'homme est dans la dimension de l'existence. C'est une dimension provisoire, à l'abri de laquelle nous avons le temps d'acquérir le mérite d'être. Alors, l'être vraiment, c'est Rolamama. L'existence, c'est Rolamama. Et l'existence, c'est quoi? C'est l'existence contingente dans l'espace et le temps, et entre la vie et la naissance et la mort. Une existence qui, existentiellement, si je veux dire, est absolument éphémère, fantomatique, par rapport à ce que notre propre esprit, notre propre âme, neshama, notre propre cerveau, intelligence, nous fait comprendre comme étant l'être vraiment. L'être vraiment n'est pas de notre monde. Notre monde, c'est le monde de l'existence. Nous avons ce privilège, à travers notre neshama, de savoir qu'une promesse d'être nous a été faite à la naissance. Voilà. Ce que je vous ai indiqué, c'est le lien entre un enseignement de la Torah, dont l'objet central est métaphysique, la création, et le message moral que la tradition va d'abord entendre de là. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, si c'est suffisamment clair, j'ai assez de produire. Hein. Je ne vous fais pas de cabalage. Vous avez entendu parler que ça existe. Dans 40 ans, on va parler. Parce qu'il faut 40 ans.
Vous avez dit que l'être n'existe que parce qu'il mérite.
Non.
Ou plus exactement, le.
J'ai dit que l'être de la créature ne peut être, exister, c'est pas dans le temps et l'espace, que s'il a acquis le mérite d'être. Tu comprends un peu? Nous sommes dans le monde des méthodes, des jeux. Vos questions m'obligent à parler trop vite et à en faire d'autres choses à la fois. Nous sommes dans un monde où ce que la Torah nous demande, c'est d'acquérir le mérite des méthodes. Mais ne vous approchez pas au terme du passé, parce qu'il faut les penser à le strat de ces méthodes, le salaire de ces méthodes, c'est pas plus ou moins ici, c'est pour le monde de l'être vraiment, dans la montagne. Vous connaissez cette attention? Vous allez le redire. Et puis surtout, il faut nous confronter à la réalité. L'être parfait, mettez le mot de parfait entre guillemets, c'est pas un mot juif, pas un mot mauvais, latin, mais ça, on le trouvera là. Admettons, l'être parfait entre guillemets, vous croyez qu'il n'a créé qu'un monde imparfait? Il y a un problème. Sentez pas ce contraste. Vous savez que, sans le jour de Kippour, la phrase qui suit le premier verset du Shachma, dans le chef de l'homme, dans le coup de la ramballée, on le dit en basse. Vous savez cela? Pourquoi? Parce que ce serait un blasphème de dire à voix haute que ce monde est réussi. Déjà, il est en train. Vous avez compris? Il y a un contraste entre l'idée de Dieu et l'idée du monde, tel qu'il est. C'est pourquoi on le dit, parce qu'on ne peut pas le dire. Si vous saviez quel monde enchanté est le monde du monde, ça vous aurait fait un peu d'âge. Mais c'est caché. Et alors, on ne peut pas le dire, ne pas donner gloire au Créateur d'avoir créé ce monde de notre existence. On le dit en basse. tant que le monde est dans l'état où il est. Et vous avez gagné pour le journal. Lisez le monde, vous aurez tout seul. Alors, quelqu'un qui lit le monde, quelqu'un qui lit le journal, qui voit ce qu'il y a dans le monde, pourrait vraiment être satisfait de l'état humain? Évidemment pas. Alors, pourquoi vous voulez que le créateur soit satisfait? Vous comprenez le problème, c'est simple. Okay. Alors, par définition, si je comprends l'état de ce monde-ci comme ce monde-ci, je sais que ça mène ailleurs. C'est clair? En connaissant ce monde-ci comme ce monde-ci, je sais qu'il y a un problème là-bas. Sinon, ce monde-ci lui-même n'existe pas. Il tiendrait parti. Et il dure. Donc, ce qui n'implique pas. Est-ce que c'est clair? Et c'est pourquoi d'ailleurs la Torah n'a pas enseigné ça. Il y a beaucoup de gens qui demandent pourquoi la Torah ne dit pas qu'il y a un problème là-bas. Mais malheureusement, si elle avait étudié ça, elle n'aurait rien à tout dire. Elle ne parle qu'à ce qui de ça. Est-ce que vous avez compris? Je reviens d'ailleurs sur cette. Vous savez, la Torah, ce n'est pas un livre de religion à la manière des livres de religion des autres religions. Vous avez compris? Oui, je raconte une petite histoire, puisque le français, c'est la culture française, c'est-à-dire le monde chrétien. Vous allez étudier, même dans la parasha de la Shavua, de la Gra, lorsqu'un ange vient annoncer à Sarah qu'elle aura un enfant. Et vous savez, Sarah qui a dit, elle a un enfant. Qu'est-ce que fait Sarah? Elle dit. Vous avez un livre qui s'appelle Les Évangiles. Et puis, on nous raconte une histoire à Melode, des copieurs, mais un peu changé. Alors, ça s'appelle l'annonce faite à Marie. Vous connaissez ça? Oui. Même s'il n'y avait pas de Marie, on l'appelle Marie. Et alors, il y a un ange qui vient annoncer à cette Marie qu'elle va avoir un enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle croit. C'est pas sérieux. Qui fait son Jésus? Dans la Bible, dans la Torah, on est en sécurité parce que c'est un monde normal. Tandis que vous avez des livres de religion, de théologie, de fondateurs de religion qui racontent des mythes. En général, c'est compliqué. Vous comprenez? Bon. Je répète les deux phrases. Quand Sarah entend, à l'âge où elle est, un ange divin qu'elle aura un enfant, elle dit, il y a sept dimensions dans ce livre, d'après les mêmes phrases. C'est un livre de joie, c'est un livre de gloire, c'est un livre de triomphe, mais c'est un livre, premièrement. Okay? D'ailleurs, quand Dieu dit à Abraham, tu sais ta femme, je dis qu'elle a un enfant, elle arrive. Abraham, je crois qu'elle arrive. Non, non, elle arrive, lui dis-tu, ça a bien fait. Ça, c'est ce que j'ai. Mais c'est normal, on est dans un monde normal. Tandis que, vous avez toujours entendu une histoire, vous avez entendu parler de Lourdes. Bernadette, bien sûr, vous vous rappelez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite jeune fille qui a une vision. Éblouie par cette vision, elle voit une belle dame avec une robe bleue et qui tenait un lys. Et bien, c'était à la cru. Si c'était une petite fille, elle lui aurait dit qu'aujourd'hui, on n'est pas la robe bleue. Vous avez compris ça? Là, oui. Dieu se révèle, se manifeste selon les catégories de chacun. Et alors, je voudrais que vous compreniez dans ce que je dis là, c'est qu'on est en sécurité dans le récit de la Torah. Parce que ça concerne la réalité telle qu'elle est. C'est un livre avec lequel on triche. Vous comprenez? Alors, je vais finir sur l'histoire de Louis, parce que ça fait une anecdote importante, d'autre part. Et puis, on revient au sujet, c'est-à-dire que nous sommes en présence d'un monde dont la vérité qui a commencé par être du chaos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il faut s'étonner. Le premier verset dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout de suite après, la terre était chaos. Il faut s'étonner. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre est chaos. Et alors, si ce n'était pas Dieu pour nous, qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'étonner. C'est pas normal. C'est clair? Bon. C'est ce diagnostic-là. Le monde de la réalité est un monde en chaos, en reste de chaos. Il y a eu l'organisation des civils. Mais il reste toujours. Alors, voilà. Je suis avec l'autre parce que ça m'a fait une anecdote importante. J'étais avec l'autre en France, dans un congrès de théologien de médecins, sur les miracles. Et puis, on est arrivé à la question des miracles de l'autre. Il y a un jésuite qui m'a demandé, il croyait le piège, Monsieur le rabbin, est-ce que vous croyez dans les miracles de l'eau? Je lui dis oui, monsieur. Il y a une condition, c'est que l'église des habitudes, en fait, soit dans les miracles. Il y avait un silence dans la salle. Le rabbin, il croit bien de l'eau. Alors, je vous avais expliqué. Ça veut dire que Dieu s'occupe de toutes ses créatures, même qu'à tout. Ça veut pas dire que vous êtes un missile. Est-ce que vous comprenez? Résumé. Nous sommes des monothéistes. Donc le miracle de Lourdes, c'est possible. Ça ne veut pas dire le miracle de Lourdes. Ça veut dire que Dieu s'occupe de chacun à travers chacun, comme il est. Est-ce que c'est clair? Je ne trompe pas. Hein? Bon. Et à Israël, Dieu a dit, tu seras sage et tu ne te feras pas de ménage. Ça, c'est l'équivalent. Un ménage que je vous ai demandé. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, si tu es sage, tu auras une ménage. Et quand l'homme est arrivé au Sinaï, tu seras sage et tu ne feras pas d'image. Ça c'est l'histoire. Bon, alors en tout cas, pour revenir à notre problème, eh bien, il est bien évident que le monde de l'existence dans lequel nous sommes ne peut pas être le dernier mot du monde. Ça vous indique, ce que nous avons dit tout à l'heure, que c'est le temps du monde où nous devons mériter l'être vrai. Est-ce que c'est clair? Alors, d'emblée, nous en avons fait. Il y a un commencement, il y a un aboutissement. Je crois que la notion la plus importante, c'est celle-là. Il y a un commencement, ça veut dire que ça devient un produit. S'il y a un commencement, ça veut dire qu'il y a un aboutissement. C'est par commencement que Dieu a créé notre monde. Alors, écoutez, à cela, en français, ces deux termes de être et d'exister n'ont pas le même sens. C'est bien clair? Exister, c'est à travers l'espace et le temps. Être, c'est être vraiment. Mais l'être vraiment, c'est que Dieu. Donc Dieu a aménagé, ça c'est dans la Kabbalah qu'on étudie comme, a aménagé une bulle de vie pour y mettre son monde. C'est le monde de Ramassé qui nous donne le temps, le loisir, c'est un abri de mériter le vrai être dont nous avons le pressentiment. Et bien évidemment, ce pressentiment est nourri par l'étude de la Torah, puisque les prophètes ont entendu du vrai être, qu'est-ce que c'est pour notre existence.
Si je comprends bien, pour être, il faut mériter. Est-ce que pour exister, on peut ne pas mériter?
Bien sûr, parce que le commencement, bien sûr, on peut, parce qu'on doit, ça c'est clair. Mais le commencement de l'histoire, c'est un cadeau gratuit. Dieu nous crée par le datafesset, ça veut dire par charité gratuite, cadeau matana. Et puis tout notre temps, c'est de mériter a posteriori ce cadeau qu'il nous a eu. Et tout dans la vie, c'est comme ça. Tout nous est donné à l'avance par cadeau. Et ensuite, il faut le mériter. Si on le mérite, on l'obtient. Si on ne mérite pas, on le perd. C'est un enseignement de Nahmani sur ce premier rachis, de la Rouvée et le Ramban, qui vous explique ça comme ça. Cette grande leçon, c'est que, et nous vivons cela à tous les niveaux de la vie, à la naissance, on nous a donné en cadeau de promesse, la promesse de l'être. Et puis voilà, on passe toute sa vie à mériter, à posteriori, son âge de naissance. C'est bien. Vous avez, et alors, celui qui mérite, il confirme. Celui qui ne mérite pas, le perd. Nous, comme nous. C'est ce qui a été dit au premier. Vous apprendrez ça assez rapidement que chacun des grands patriarches, qui sont tous grands, ont mis en évidence un de ces moments. Du sujet dont nous parlons, de ces vertus que nous connaissons du frère. La première étant la vertu du don, Matan Torah. Mais c'est d'abord donné, dans notre don, Matan Torah. La Torah nous est d'abord donnée. Et ensuite, il faut l'acquérir. Et comment on l'acquiert? Pour transformer le don en acquisition, le Matan en Kinyan, comment on acquiert la Torah?
En étudiant.
C'est l'étude qui transforme la mémoire en savoir. Et au niveau de la mémoire, c'est un cadeau. Et puis le savoir, c'est acquis. Voilà, c'est j'avais un exemple pour comprendre. C'est comme ça dans, pour tout le monde de l'être. Retenez surtout l'expression traditionnelle. Vous allez apprendre cette expression, et puis d'autre part, on va étudier. Un tel qui a acquis telle vertu, kana olamo besharaïa, a acquis son monde en une heure, en un moment. Et c'est cette expression qui est l'apprendre. Il y a des vertus exceptionnelles qui font que, en une conduite, on a acquis son monde, Kana Olamo. Et on ne le dévoile pas, on ne sait pas, je m'explique un peu plus précisément, c'est-à-dire qu'il faut être scrupuleux sur tous les gens de la vie parce qu'on ne sait pas lequel. Sinon, ce serait une loterie à risque non calculé. Regardez son cachet. C'est pourquoi nous ne connaissons pas le sort de Mizraï. Et personne ne sait par quel Mizraï il va gagner son monde. De le traduire comme ça. Alors pourquoi il fallait scrupuleux pour tout? On a beaucoup de psychologie devant le grand ami. Tu vas rencontrer une fois. Tu as un grand ami du Harry, qui a été un des grands maîtres de la parole Et alors, il y avait un élève, grand élève, certainement, qui était très pieux, bien entendu. Et puis, voilà, un Shabbat, il avait étudié, il y avait un moustique qui le gênait. Machinalement, il a pris le moustique. Son reste, il avait dit, tu as tué. Tu es comme Caïn qui a tué son père. Chacun a son ami. Ça veut dire, il faudra recommencer. Bon. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui pourra. Chacun a une mitzvah qui lui appartient. Alors il faut le pratiquer tout. Parce qu'on ne sait pas laquelle. Est-ce que c'est clair? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a remarqué les familles. Parce que c'est tout le peuple d'Israël ensemble qui pratique la Torah. Ça, c'est ce que les humains ont oublié. Ils ont tout fait. Le problème. Bon, ce que je voulais dire, ça m'a échappé, mais vous comprenez quel est le Kana Olamo Bechara. Alors ça veut dire que le Olam de chacun est à être acquis. Vous avez compris? Il nous est donné à la naissance. Et chacun a son monde. Donc, dans cette expression, il a acquis son monde. C'est le monde tel que chacun le comprend, le connaît, le souhaite, en a exigence, ce soit un monde de chacun. C'est le secret, chacun a le sien. Ni plus ni moins. Alors c'est ce que dit c'est vrai. Chacun va acquérir son monde. J'ai compris, ça devient un peu plus de valeur. Bien. Alors, donc, la première notion que nous apprenons, on ne s'est pas préoccupé, ça ne veut pas dire que la question n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire créer? On ne comprend pas. Il faut apprendre de quelqu'un qui a appris, de quelqu'un qui a appris de lui. Et puis, maintenant, qu'est-ce que on en retire comme enseignement? Pourquoi la Torah nous le dit? Eh bien, c'est un enseignement très important. Et c'est pourquoi les grands commentateurs diront cette notion que le monde est créé, c'est la base de la Torah. C'est notre problème. Si je prends pas conscience de moi comme créature, je ne crée pas. Vous verrez dans les études que nous aurons des personnages dont on fait étudier le profil, etc. Quelqu'un qui se connaît comme étant lui l'être n'est jamais moral. Il n'a plus à se mettre. Enfin, c'est ce qu'il croit. Alors, il est. Par définition, amoral. Et pour lui, la morale n'a aucun objet. C'est cet orgueil de celui qui croit qu'il est déjà, en général, pire à l'exception, cet orgueil mène à l'amoralisme. Il n'y a que celui qui sait qu'il a acquis son être qui a le scrupule de la morale. Est-ce que c'est suffisamment clair? Je vous en fais encore une analyse à ce sujet. On parle des morales laïques et on parle des morales religieuses. Et indéniablement, il y a des gens, on les appelle trilonies en hébreu, plein d'anglais, et il y a des gens qui, sans être croyants, ont l'exigence de la moralité. Ça existe, c'est clair. Ça existe, c'est une histoire. Mais finalement, dans l'état des choses, il y en a. Et bien, malgré tout, quand une conscience religieuse expérimente, perçoit la notion de faute, par exemple, c'est différent. Quand une conscience laïque, disons, c'est beau, c'est pas exact, mais peu importe, perçoit une question de faute. Quand un non-croyant fait une faute morale, ça le gêne, c'est une faute. Mais ça n'a jamais la dimension de gravité que cela dans une conscience religieuse. Vous avez compris de quoi je parle? Quelle est la différence, vous savez? Parce que...
Non, je pense que parce que celui qui réalise, qui fait, bon, qui n'est pas droit, c'est-à-dire qui commet une erreur, ou qui sait qu'il a commis une erreur, le non-religieux résonne à une dimension, c'est-à-dire la dimension de l'âme, alors que le croyant lui résonne à deux dimensions.
Très bien. Ça, c'est la question. C'est pas la réponse. Et qu'est-ce qui fait la différence? Et où est la différence? C'est compris. Tu as répété la question après que tu as bien expliqué, mais c'est pas vrai. J'ai assuré la rachet, mais je vais faire la rachet, je vais le médecin là-bas. Je vais le faire. D'ailleurs, je vais le faire. Ah, il y a un deuxième médecin.
Je ne sais pas quoi.
Tu es allergique?
Non.
Ah, c'est quoi?
Le médecin.
Tu es allergique?
Non.
Ah, c'est vrai, les gens, il n'est pas allergique.